Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Fobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, lutte contre la vie chère, les produits de première nécessité, notamment les céréales, l'huile, le sucre et la farine, et également le lait, pourraient être subventionnés par le gouvernement burkinabé. C'est ce qui ressort de la rencontre hier entre le Premier ministre Albert Ouédraogo et la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. 3 ans après la mort dans des conditions non encore élucidées de Fadou Cissé et Ama Balima, membres de l'ODJ, Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina, leurs camarades réclament justice. Au Cameroun, la sénatrice du parti au pouvoir, Elisabeth Regina Mundi, kidnappée fin avril dernier, a été libérée lundi. Et puis, notre invité est le professeur Serge Théophile Balima, spécialiste de communication et des médias, journaliste également. Avec lui, il sera question de la problématique de la gestion et du traitement de l'information en période de crise, notamment celle sécuritaire. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous vous l'annoncions en titre, pour lutter contre la vie chère, le gouvernement burkinabé propose de subventionner les produits de première nécessité, notamment les céréales, l'huile, le sucre, la farine et le lait. Cette proposition nous annonce la primature, a été faite hier lors de la rencontre entre le Premier ministre Albert Ouédraogo et une délégation de la Ligue des consommateurs du Burkina. Pour le président de la Ligue des consommateurs du Burkina, Dasmane Traoré, des dispositions doivent également être prises pour suivre la vente de ces produits de première nécessité parce que, a-t-il souligné, qu'il ne sert à rien d'apporter des subventions au niveau des grossistes et leur permettre d'appliquer les prix comme ils veulent avant de poursuivre qu'il ne faut pas que l'augmentation soit une culture auprès des acteurs vis-à-vis des consommateurs, a insisté Dasmane Traoré. Il a rassuré que sa structure continuera de jouer son rôle de veille citoyenne, de plaidoyer et d'interpellation. Des acteurs de la société civile demandent justice pour deux de leurs camarades, Fadou Cissé et Ama Balima, tous deux membres de l'ODJ, Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina, qui ont trouvé la mort le 31 mai 2019 dans des conditions non encore élucidées à l'entrée de la ville de Séba, province du Yaga. À l'occasion de l'anniversaire de l'an 3 de ces assassinats, leurs camarades de l'ODJ, du CISC, Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés et le MBDHP, Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples, donnent de la voix afin que justice leur soit rendue. C'était au cours d'une conférence de presse tenue hier même à Ouagadougou. Plus de détails avec Abdulaziz Zoulabou.
Le 31 mai 2019, alors qu'il se rendait à une rencontre avec le haut commissaire de la province du Yaga, Fahadou Cissé et Ama Balima seront assassinés à environ 4 km de la ville de Séba. Tout porte à croire, selon les responsables de l'ODJ, qu'il s'agit d'une exécution politique au regard du combat que menaient ces derniers pour le bien-être des populations. Gabin Corbeogo est le président de l'ODJ.
Ils ont été assassinés parce qu'ils ont été assassinés pour leurs opinions. Voilà, c'est des camarades qui sont battus, comme on l'a dit, c'était des vrais combattants de la liberté, des gens qui étaient montaient fréquemment sur les barricades, organisaient les populations locales donc autour de leurs préoccupations pressantes, et ils ont réussi à mener des grandes batailles à l'échelle régionale et même au-delà. Voilà. Et ils ont réussi aussi à arracher des grands acquis. Donc c'est au nom de cela que les camarades ont été assassinés. Donc c'est pour cela que nous disons que c'est des crimes politiques d'État. Voilà.
Depuis lors, plusieurs actions ont été engagées pour que la lumière soit faite sur cette affaire, sans grand succès. Gabin Corbeogo.
Jusqu'à ce jour, aucune avancée. Voilà. C'est pas qu'il n'y a pas eu des tentatives de relance. L'avocat qui nous accompagne, le conseil donc, de la famille, a saisi recontacter le tribunal militaire parce que c'est des assassinats qui ont été commis dans une zone sous état d'urgence. Donc, ça relève la compétence donc, du procureur militaire. Donc, il a été recontacté, mais jusque-là, aucune avancée, on dit bien aucune, ni sur l'autopsie.
Le 18 mars 2022, 8 personnes ont été enlevées et exécutées à Fada par des éléments présentés comme des FDS et des VDP. Dans la commune de Gibo, le 22 avril 2022, 18 autres personnes ont été exécutées, toujours par des personnes présentées comme des éléments des FDS. Ce sont autant d'exécutions sommaires relevées et déplorées par les conférenciers du jour, qui appellent d'ailleurs à une prise de responsabilité de la part des autorités pour rendre justice à ces suppliciés, mais aussi pour éviter de telles situations dans l'avenir.
Justement, afin de prévenir l'extrémisme violent chez les jeunes, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation mène des réflexions. Le dit ministère a tenu hier à l'Université de Ouagadougou sa première session 2022 du CASEM du ministère de l'Enseignement supérieur. Il a été question au cours de ce CASEM d'outiller les institutions de l'enseignement supérieur de mécanismes afin d'empêcher les étudiants de rejoindre l'idéologie de l'extrémisme violent. Compte rendu signé Pierre Badolo.
Le premier CASEM du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est penché sur la crise sécuritaire au Burkina Faso. Comment procéder à plus de sensibilisation dans le milieu étudiantin contre l'enrôlement des groupes extrémistes? Tel est l'enjeu majeur de ce premier CASEM du Mestre, d'où le thème « Faire des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche des canaux de prévention de la jeunesse étudiantine contre l'enrôlement à l'extrémisme violent et à la radicalisation au Burkina Faso ». Professeur Frédéric Ouattara, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.
Conformément au thème qui a été annoncé, vous êtes sans ignorer que notre pays traverse un moment d'insécurité et notre objectif est surtout de parler de comment est-ce que, en dehors du contexte militaire, comment est-ce que les universités et les centres de recherche qui sont du Burkina Faso peuvent contribuer au mieux à partir des échanges qui vont se dérouler, de trouver des solutions endogènes à notre problème afin d'éviter que nos étudiants qui, au sortir de ces universités, ne soient enrôlés dans le cadre du terrorisme qui nous concerne.
La lutte contre l'extrémisme violent n'est pas seulement que militaire, il faut alors multiplier et diversifier des actions dans plusieurs domaines, y compris au sein des universités. Pierre Nakoulouma, directeur général du Centre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.
Le choix de ce thème, c'est en lien avec l'actualité. Nous vivons une crise sécuritaire qui interpelle tout le monde. Donc, le CASEM ne pouvait pas ignorer cet aspect essentiel de la réalité du pays. Comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a beaucoup de raisons. C'est pour ça que j'ai dit que la réponse à la crise sécuritaire ne peut pas être que militaire. Il y a bien des aspects sociaux qu'il faut analyser. Quand vous voyez des étudiants qui sont censés être la future crème du pays, qui se laissent avoir par l'extrémisme, c'est quand même difficile. Ça veut dire que l'institution universitaire est interpellée et doit jouer son rôle et ne pas laisser l'obscurantisme prendre le pas sur ce qui est rationnel.
Lors de ce premier CASEM 2022, le ministère a saisi l'occasion pour revenir sur le bilan de l'année écoulée 2021. Les performances ont été enregistrées. Le bilan est satisfaisant, mais des défis restent à relever quant au retard académique, l'insuffisance des infrastructures universitaires et mettre à la disposition des institutions éducatives universitaires des moyens adéquats.
L'ambassadeur de l'Inde fait ses adieux au corps diplomatique. Après avoir passé 3 ans au Burkina, Vijay Singh Chauhan est en fin de mission avec plusieurs acquis engrangés en termes de coopération entre le Burkina et l'Inde. La cérémonie d'au revoir a eu lieu lundi dernier à Ouagadougou, le compte-rendu signé Valérie Guéret.
C'est une soirée d'honneur et de remerciement qui est organisée à l'endroit de l'ambassadeur plénipotentiaire de la République de l'Inde. Après 3 années de coopération entre les deux pays, Vijay Singh Chauhan fait ses adieux au corps diplomatique burkinabé. L'ambassadeur dit garder un bon souvenir d'amitié.
I have the good opportunity of meeting His Excellency,
President
of Burkina Faso today, and he reiterated our concerns and our sentiments on further cooperation, and we hope this will be a good thing for moving the relations forward.
et tout comme le Burkina Faso, l'Inde aussi fait face à ce problème de terrorisme. Et nous devons réfléchir, avoir des nouvelles idées pour venir à bout du terrorisme.
Malgré ces difficultés rencontrées sur le plan sécuritaire et sanitaire par les deux pays, des acquis ont été engrangés en termes de coopération dans plusieurs domaines d'activité, à en croire la ministre des Affaires étrangères, Olivia Romba.
Au titre des interventions notoires de l'Inde en faveur du peuple burkinabé, permettez-moi de citer le financement à hauteur de 50%, soit environ 500 millions de francs CFA, du projet de réalisation du barrage de Nangdo, dont le lancement officiel des travaux de construction est intervenu le 3 août 2021. Le ferme engagement de l'Inde à accompagner le Burkina Faso dans la gestion de la crise humanitaire qu'il rencontre. À ce sujet, des milliers de tonnes de riz ont été octroyées au Burkina Faso à titre de don et sont en attente de réception.
À l'issue de cette cérémonie, l'ambassadeur plénipotentiaire de la République de l'Inde a été exceptionnellement élevé officier de l'ordre de l'étalon.
L'Union européenne envisage de déployer 3 nouvelles missions militaires en Afrique de l'Ouest après la suspension de ses missions de formation au Mali et en République centrafricaine selon un document du Service européen pour l'action extérieure daté du 25 mai. Il faut noter que ces missions militaires seront présentes au Burkina Faso en plus de 2 autres pays. Plus de détails avec Régis Bonny.
Une mission militaire au Niger devrait être la première à être déployée, étant donné que les autorités nigériennes ont déjà demandé à l'Union européenne de créer un, je cite, « centre d'excellence en matière de logistique et de maintenance dans les environs de Niamey », fin de citation, révèle le document tout en précisant que, je cite, « l'Union européenne souhaite aller au-delà de cette demande pour former, équiper et accompagner les forces armées nigériennes », fin de citation. Au Burkina Faso, les autorités ont également demandé la présence d'une mission militaire européenne assurant la formation, l'équipement et l'accompagnement des forces armées locales lors de, je cite, « discussions techniques », fin de citation. Le Service européen pour l'action extérieure a cependant noté que le Burkina Faso serait, je cite, « en train de jouer un double jeu », fin de citation, puisqu'une délégation militaire burkinabé de haut niveau a été envoyé au Mali à la mi-avril, ce qui a éveillé des soupçons sur la volonté de Ouagadougou de copier la stratégie de Bamako en faisant appel à des mercenaires russes pour combattre les djihadistes. Dans le golfe de Guinée, le document évoque la création d'une, je cite, « empreinte militaire limitée dans un état côtier identifié », fin de citation, qui accueillerait des formateurs militaires de l'Union européenne capables d'effectuer des, je cite, « missions sur mesure », fin de citation, dans la région tout en signalant que le projet n'est qu'à ses débuts. Le document souligne par ailleurs la nécessité de maintenir un minimum de présence militaire au Mali pour ne pas créer un vide qui pourrait être exploité au détriment de l'Union européenne. Pour rappel, l'Union européenne avait décidé en avril dernier d'arrêter la formation des unités des forces armées et de la garde nationale malienne à cause de leur collaboration avec les mercenaires de la compagnie paramilitaire russe Wagner venus au Mali à l'appel de la junte au pouvoir. L'Union européenne avait engagé plusieurs centaines de militaires et d'experts dans 2 missions de formation au Mali.
Toujours à l'international, le Burkinabé, Dr Boukari Sawadgo, rebelote avec un nouveau prix aux États-Unis. Après celui de meilleur professeur des 24 universités de New York en 2021, il a été désigné hier meilleur professeur de l'année par le système universitaire de New York. À quoi consiste cette distinction? Réponse avec Dr Boukari Sawadgo. Il a été joint au téléphone par Astrid Ninkiema.
C'est la fin de l'année. C'est cette période aussi que les universités, qu'elles soient américaines, à travers les départements et les différents programmes, distinguent les professeurs qui ont eu à s'illustrer positivement au cours de l'année académique. C'est dans ce cadre que le programme Black Studies à City College of New York m'a désigné comme le meilleur professeur de l'année 2022, qu'on appelle... Instructor of the Year Award. Donc, c'est une grande distinction pour moi que je prends avec beaucoup d'humilité et aussi comme une invite à travailler davantage. Et au-delà de ma personne, c'est une distinction pour le Burkina Faso, pour toute l'Afrique. Parce que pour quiconque connaît les États-Unis, on sait que tous les domaines d'activité, c'est très compétitif. On a des talents qui viennent du monde entier pour compétir dans les différents secteurs d'activité. Cette distinction fait suite à une autre distinction dont j'étais récipiendaire l'année dernière, toujours dans le cadre de mon travail. Mais le prix de l'année dernière, c'était un prix qui concernait les 24 universités qui composent le système universitaire qu'on appelle City University of New York. Et le prix de cette année concerne uniquement mon campus et particulièrement le programme de Black Studies.
Et au Cameroun, la sénatrice Elisabeth Regina Mundi est libre. Enlevée il y a un mois par des séparatistes dans la région du Nord-Ouest, Elisabeth Regina Mundi a été libérée lundi dernier, a annoncé l'armée camerounaise. Elle avait été kidnappée à Bamenda le 30 avril dernier. La libération de la sénatrice a eu lieu à l'issue d'une opération militaire à Achong dans le département de la Momo. Ses ravisseurs demandaient un échange de prisonniers et menaçaient de l'exécuter. L'opération qui a mené à la libération de la sénatrice Elisabeth Regina Mundi a été lancée dimanche matin, précise l'armée dans un communiqué.
Omega Sport.
L'actualité sportive du jour nous est présentée par Ibrahim Bayili.
Bonjour, l'AS Sonabel a un nouvel entraîneur. C'est ce que nous apprend sa page Facebook. Il s'attache les services de Drissa Ouédraogo. C'est sur deux saisons que l'AS Sonabel et Drissa Ouédraogo ont convenu pour conduire la barque de l'équipe A de football des électriciens. La signature de l'acte a eu lieu hier matin entre Moussa Dani, agissant en qualité de président du comité exécutif, et l'entraîneur. En rappel, les électriciens ont terminé la saison à la 8e place et étaient conduits par Mahamadi Bagué, qui a été débarqué au profit d'Adama Yanogo, qui avait pour mission de conduire l'équipe jusqu'à la fin de la saison. L'ancien entraîneur de l'AS Kuritenga aura pour mission de redonner aux électriciens leur lettre de noblesse. La deuxième audience du procès qui oppose Aristide Bansé à l'ancien président de la Fédération Burkinabé de football s'est ouverte ce mardi 31 mai 2022 au tribunal de grande instance Ouagadougou, 6 au quartier Karpala. Cependant, l'audience a à nouveau été renvoyée pour rôle général en raison de l'absence des deux parties. Le dossier est donc mis en attente. Une première audience avait été programmée le mardi 10 mai 2022. L'audience avait été renvoyée au 31 mai à la demande de la défense du prévenu. Le président Sita Sangaré poursuit Aristide Bansé pour des faits de diffamation. Les deux parties étaient donc absentes au procès ce mardi. Le cabinet d'avocats qui défend Aristide Bansé a délivré une lettre pour demander le renvoi de l'audience en raison de l'absence de son client. Les deux premières journées de la phase de groupe des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire CAN 2023 débutent ce mercredi. À Cape Coast au Ghana, les Black Stars du Ghana donc reçoivent les Barias de Madagascar dans le groupe E. Dans ce même groupe, les Palanca Negras d'Angola reçoivent à Luanda les Fauves de Baoubangi de la Centrafrique. À Benghazi, la Libye sera face au Botswana dans le groupe J. Les étalons recevront les requins bleus du Cap-Vert le vendredi prochain à Marrakech. Les étalons, faut-il le rappeler, sont depuis dimanche à Marrakech où ils peaufinent leur préparation pour cet important rendez-vous. Un premier que Hubert Velloud prépare dans la plus grande discrétion. Alors que Franck Kessié est annoncé à Barcelone pour 2022-2023, on révèle que sa signature dans le club catalan a du plomb dans l'aile. Sport S révèle que les Blaugrana ne pourraient pas révéler l'arrivée de Kessié en raison de problèmes financiers. Les mêmes contraintes financières qui ont provoqué le départ de Lionel Messi sont à l'horizon pour Kessié. Pour franchir cette barrière, Barcelone doit libérer des salaires et augmenter ses revenus. Cela va permettre d'avoir plus de ressources et inscrire l'Ivoirien de 25 ans dans l'équipe. Victor Osimhen est transférable à Naples vers d'autres horizons, mais le club de Serie A a donné une date limite pour clore toute négociation. Le mercato estival s'annonce mouvementé au Stadio Diego Maradona, mais
L'invité du jour. L'invité du jour.
La pratique du journalisme en période de crise, un sujet qui demeure actuel, tant les journalistes se sentent actuellement coincés entre le marteau et l'enclume d'une part, ils sont limités dans la vérification des faits sur le terrain du fait de la crise sécuritaire et de l'autre côté, ils sont condamnés à exploiter des communiqués alors qu'une mauvaise information peut enflammer la société. Le professeur Serge Théophile Balima, spécialiste de la communication et des médias, journaliste et universitaire à la retraite, rappelle ici la nécessité d'une bonne pratique du métier de journaliste. Il répond aux questions de Asmao Daou.
Professeur Balima, bonjour.
Bonjour.
Le Burkina Faso est confronté à une crise sécuritaire depuis 7 ans et on le sait, en temps de crise, on ne communique pas comme en temps de paix. D'abord, dites-nous comment vous appréciez l'attitude des médias dans ce contexte.
Je trouve que le contexte est particulièrement difficile pour les journalistes parce que exercer ce métier exige qu'on ait une totale liberté de se déplacer, de témoigner, de montrer ce que l'on a vu, ce que l'on a entendu. Mais dans ce contexte particulier, effectivement, l'exercice du métier devient difficile en raison d'un certain nombre de contraintes. Les contraintes d'abord de terrain, parce qu'il y a risque pour le journaliste lui-même, parce qu'il faut qu'il soit vivant pour pouvoir exercer son métier. Et il y a aussi d'autres risques liés aux institutions qui sont hypersensibles et qui ne veulent pas que le journaliste puisse, par exemple, dire des choses qui ne vont pas dans le sens des institutions, telles que l'armée, telles que les ministères, pour ne citer que ces deux institutions.
Actuellement, les médias sont souvent obligés de se contenter des communiqués de l'armée ou du gouvernement, qui sont souvent contradictoires. Que doit-on faire exactement?
Le journaliste, dans ce contexte, doit faire de ses sources officielles et institutionnelles des sources d'information, mais pas forcément en faire des vérités absolues. C'est-à-dire que le journaliste, dans ce contexte-là, doit trouver d'autres moyens de vérification des déclarations officielles. Il s'agit, par exemple, d'avoir ce qu'on appelle soit des pisteurs, soit des fixeurs, qui se trouvent réellement sur le terrain. Vous les appelez pour vérifier sur leur bonne foi si, par rapport à ce qui est diffusé, ça correspond réellement à ce qu'ils vivent sur le terrain. Et en ce moment-là, vous nuancez vos propos en respectant bien ce que les sources officielles ont dit, mais vous contrebalancez avec d'autres témoignages. Et là, vous êtes dans votre bon droit de le faire. Le journaliste, c'est ça aussi, c'est la vérification des sources.
Vérification des sources et face aux informations qu'on reçoit des sources locales, pour un média comme Omega qui veut toujours être premier à donner l'information, la primeur de l'information, que doit faire le média?
Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut se presser de donner l'information parce que plus l'information est nouvelle, plus sa valeur est grande. Mais il faut faire attention pour ne pas se faire, on va dire, tromper par des témoins qui sont parfois guidés par d'autres intérêts autres que l'intérêt de l'information objective.
De façon générale, comment vous appréciez le comportement des journalistes dans cette situation de crise?
Globalement, je trouve qu'ils se défendent quand même assez bien. Il ne faut pas non plus faire le procès des journalistes en les accusant de tous les maux comme on le fait facilement. Parce que sans leur travail de vérification, la gouvernance elle-même va être amputée. Mais ils doivent se dire qu'aujourd'hui, les institutions ont développé des moyens de communication avec des ressources humaines communicantes et qui sont de nature à perturber une pratique orthodoxe du journalisme. Et c'est aux journalistes maintenant de savoir qu'ils doivent être au-dessus des communicateurs pour garder leur mission de 10 heures de vérité.
Certainement, vous soulignez les plateformes de communication du service du gouvernement ou bien la présidence du Faso. Ce qui se passe au Burkina Faso, on se contente du peu de la mise à disposition de ressources audio, écrits, photos pour faire vivre nos médias. Dans l'avenir, qu'est-ce que cela peut donner?
Le Burkina est un des rares pays où la culture communicationnelle a pris de l'avance. Ce que vous avez cité comme mode d'organisation de la communication au niveau des institutions ne se trouve pas dans tous les pays africains francophones.
Ça n'existe pas au Sénégal.
Exactement.
Pas au Niger.
Non plus. Et même dans d'autres pays francophones. Donc ça peut menacer le journalisme à l'avenir. C'est pour ça que les communicants aujourd'hui sont de plus en plus intelligents, de plus en plus formés, et ils utilisent le mode journalistique dans le traitement de l'information pour structurer leur communiqué, au point que le journaliste, s'il est paresseux, il peut avaler goulûment, docilement ce que les communicants ont produit, et ça c'est extrêmement dangereux.
Et certainement vous avez dû constater la guerre des chiffres. Dans ce contexte, qu'est-ce que le journaliste doit faire?
Il doit simplement citer les sources, parce qu'on l'a vu tout à l'heure au niveau de la région de l'Est, où le gouverneur a donné un chiffre qui était totalement sous-estimé, mais d'autres sources locales ont vite fait de donner en tout cas des chiffres qui étaient 3 à 4 fois supérieurs aux chiffres initiaux que le gouverneur avait donné. Mais ça montre aussi que la soif d'information, la soif de vérité est une réalité dans la société, et vous devez répondre à cette vocation majeure qui contribue à l'enracinement de la vraie démocratie dans notre pays.
Professeur Serge Théophile Balima, merci.
Je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. À la présentation, je suis Abdoulkader Konaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.